Le service de radio des églises protestantes de la Suisse romande vous présente ici les trois prédications données par le pasteur Philippe Zeissig en l'église de Yan-sur-Morge lors des cultes célébrés à l'occasion de la Semaine Sainte 1978, c'est-à-dire le jour des rameaux, de Vendredi Saint et de Pâques. Précisons que ces services ont été transmis sur les ondes de la radio suisse romande, mais que les interludes, hors antenne, sont des créations originales dues à la guitare de Tony Dallario.
Dans l'Évangile selon saint Luc. Lorsque Jésus fut arrivé près de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, il envoya deux de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est devant vous. En y entrant, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés partir, ils trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'ânon, ceux à qui il appartenait leur dirent « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin » et ils l'emmenèrent à Jésus. Puis, ayant mis leurs vêtements sur l'ânon, ils y firent monter Jésus, tandis qu'il s'avançait. Les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin, et lorsqu'il approcha de la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, transportés de joie, se mit à louer Dieu à haute voix de tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Alors quelques-uns des pharisiens qui étaient dans la foule lui dirent « Maître, reprends tes disciples. » Il leur répondit « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Quand il fut arrivé près de la ville, en la voyant, Jésus pleura sur elle. Et il dit, « Si seulement tu comprenais toi aussi en ce jour ce qui peut te donner la paix. » Si seulement tu comprenais toi aussi en ce jour ce qui peut te donner la paix. Évidemment, il faut savoir de quelle paix il s'agit. En tout cas, pas de cette petite misère de paix à laquelle nous pensons quand nous disons « Fiche-moi la paix ». Je ne crois pas qu'on puisse rien ficher de valable à personne. Et ce n'est pas non plus la paix, vous savez, la paix qui n'est que le fait qu'on arrête de se battre. On croit que la paix, c'est de ne pas se battre. Ce n'est pas du tout ça. On se bat pourquoi ? On se bat parce qu'on n'a pas la paix. Ce n'est pas la guerre qui détruit la paix. C'est l'absence de paix qui produit la guerre. Nous le savons bien. C'est quand nous sentons en nous le déséquilibre et la désharmonie que nous sommes les plus mauvais avec les autres, non? C'est quand on est, on le sait bien, la remarque est banale, le plus mécontent de soi qu'on est le plus féroce pour les autres. Non. Si les hommes savaient bien, s'ils le savaient de bonne source, pourquoi ils vivent, les hommes auraient la paix. Moi, j'aurais la paix. Cette paix, eh bien oui, qui fait la paix avec les autres, ça c'est tout à fait nécessaire, et c'est le premier cadeau de la paix intérieure, c'est qu'on fait la paix avec les autres. Mais aussi cette paix qui est bien plus que ça, qui est encore bien d'autres merveilles. Cette paix qui est, vous savez, d'entendre en soi la voix sainte et infinie qui a parlé, qui parle, qui d'entre nous ne l'a jamais entendu? La voix infinie est sainte. qui a parlé, qui parle, qui met en ordre, qui trouble quelquefois, qui illumine. Ça, c'est la paix. Ou bien c'est de se sentir en harmonie, en accord avec les choses les plus profondes et les plus hautes. Mais non, après tout, tout ça, c'est beaucoup trop difficile. On va dire, la paix, la vraie, celle à laquelle Jésus pense quand il en parle, c'est la paix qui vient de ce qu'on peut aimer la vie. Voilà. Hein? Quand on peut aimer la vie, on a la paix. Seulement, voilà, il semble que ça nous est assez difficile d'aimer la vie aujourd'hui. C'est assez curieux parce que nous sommes gâtés pourtant. Nous avons tout. Et si justement nous étions gâtés? C'est-à-dire que si, à force d'avoir tout, nous étions vraiment gâtés, mais comme une montre est gâtée, détraquée, si nous étions détraqués parce qu'on a tout. Mais regardez, on a la radio qui parle de tout, on a la télévision qui montre tout. On fait des voyages dans tous les sens, tous azimuts. On se parle d'un pôle à l'autre, on a des ordinateurs, on a des fusées. On a pris l'atome dans la caisse à outils de Dieu, on fait des descentes, on fait des slaloms au centième de seconde, au millième de seconde. Et au milieu de tout ça, on fait du vélo. Et au milieu de tout ça, quand on veut trouver quelque chose d'intéressant à faire, vous savez ce qu'on fait? On va s'enfermer dans les toilettes pour fumer un joint. Un joint, on dit comme ça probablement, j'en sais rien, parce que la drogue est censée justement faire le joint entre la vie qu'on n'arrive pas à aimer et le paradis artificiel qu'on croit pouvoir aimer. Mais voilà à quoi on en est. Non, pas partout ni toujours. Mais enfin, c'est assez pour qu'on comprenne que le Christ pleure derrière nos portes, comme il a pleuré devant Jérusalem. Vous comprenez, quand on pense avec quelle puissance de vie il arrive pour nous la proposer et qu'il nous voit sucer les herbes de mort. Comprenez le drame, c'est que rien ne peut faire aimer la vie. C'est aimer la vie qui peut faire aimer tout le reste. Ça, c'est une petite aventure que les amoureux, et il doit y en avoir ici, connaissent très bien. Ce ne sont pas les petites sorties, les petits repas, les petits cadeaux qui font aimer l'amour. C'est exactement l'inverse, c'est l'amour qui font aimer les petites sorties, les petits repas, les petits cadeaux. Et quand il n'y a plus d'amour, eh bien les sorties, les cadeaux, les repas, c'est plus rien, rien du tout. Voilà. Et c'est comme ça avec la vie. D'ailleurs, ça, on l'a compris une fois. Quand l'un d'entre vous, mes frères paysans, l'un d'entre vous que je vois d'ici, a dit, comprenez, on ne peut pas être paysan à cause de ce qui va bien dans le métier de paysan. Il y a trop de choses qui vont mal. Il y a trop de choses difficiles. On est trop mal compris. Non. Il a dit, vous comprenez, et on croit qu'on a compris, il a dit, vous comprenez, il faut aimer être paysan. Et après ça, alors, on aime ce qui dans la vie du paysan va bien et même ce qui va mal. Voilà le secret de tout. C'est pas possible, vous comprenez, de trier dans la vie. C'est pas possible de trier dans la vie en disant, eh ben ça, puis si j'avais ça, puis si j'avais encore ça, alors j'aimerais la vie. C'est pas vrai, c'est pas comme ça, c'est jamais dans ce sens-là que vont les choses. Il faut aimer la vie. Il faut avoir cette paix dont parle Jésus qui permet d'aimer la vie, après quoi on aime tout le reste. Même la mort. Je crois que Mozart, j'aime tant ce mot extraordinaire du divin Mozart. Je crois que Mozart, je vous l'ai peut-être déjà dit plusieurs fois, mais ça ne fait rien. Il avait cette paix qui fait aimer la vie. Quand il disait, avec le calme d'un regard de prime vert, quand Dieu voudra, je voudrai aussi. Bien sûr que on ne peut pas aimer la vie sans aimer Dieu. Je veux dire, on ne peut pas aimer la vie si elle ne vient pas de Dieu. Ça, c'est pas possible. Si la vie ne vient pas de Dieu, alors elle n'est qu'un piège, une espèce de piège à rat. C'est-à-dire que vraiment, la vie devient une chose à laquelle on croit, on se porte en avant, on entre dedans de toute sa force, de toute son enthousiasme, et puis tout à coup, on s'aperçoit qu'on est enfermé dans la mort. Hein, c'est ça, une trappe à rat. Eh bien, si ce n'est pas Dieu qui l'a faite, la vie est une trappe à rat. Ne vous y laissez pas prendre. Bon, c'est-à-dire que c'est difficile de faire autrement. Mais si c'est Dieu qui l'a faite, la vie, alors, vous savez, la vie, c'est comme de respirer sous un pommier après la pluie, quand toutes les herbes embaument. Et on peut l'aimer, jusque dans les choses les plus terribles qui nous arrive. Il n'y a aucun doute, vous comprenez, ce que Dieu veut aujourd'hui, non seulement pour les jeunes, mais pour nous tous qui sommes ici, c'est entrer dans notre vie comme Jésus est entré à Jérusalem. Il n'est pas entré à Jérusalem d'ailleurs parce que Jérusalem l'intéressait. Il est entré à Jérusalem parce que Jérusalem, c'était pour lui tous les hommes, de toute la terre, de tous les temps, tout homme, toute vie. Voilà dans quoi Jésus voulait entrer. Voilà dans quoi il veut entrer aujourd'hui, dans la nôtre. Il disait déjà, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Si seulement tu pouvais comprendre toi aussi, en ce jour, ce qui peut te donner la paix. On dira, oui, mais est-ce qu'on peut vraiment croire qu'il y a un Dieu? C'est vrai, c'est difficile. Ça ouvre des problèmes, ça pose des questions. Et il n'y a qu'une chose au monde, mais qu'une seule, qui soit aussi difficile que de croire qu'il y a un Dieu, c'est de croire qu'il n'y en a pas. Ça ouvre des problèmes, ça pose des questions. Et puis au moins, avec Dieu, ça c'est un mot fantastique de Ramu, dont on va célébrer d'ailleurs le 100e anniversaire de la naissance cette année. C'est un mot extraordinaire de Ramu quand il a dit « Avec Dieu, tout est clair ». Alors voilà, il y a au moins ça. C'est que quand on croit qu'il y a un Dieu, non seulement ce n'est pas plus difficile que de croire qu'il n'y en a pas, mais on voit que les choses s'éclairent. Parce qu'on peut écrire, la phrase de Ramu, on peut l'écrire des deux manières. On peut l'écrire « Tout est clair », E-S-T, est clair, tout est clair. Parce qu'alors, il n'y a plus rien qui reste absolument dans l'obscurité. La lumière de Dieu tombe sur nos questions sans réponse et sur nos problèmes ouverts et qui ne se ferment jamais. Elle tombe au moins un peu. Et puis, on peut l'écrire cette phrase « Avec Dieu, tout éclaire » du verbe « éclairer ». Et heureux, voyez-vous, sommes-nous quand pour nous, la vie commence à être éclairée par Dieu du dedans. Quand pour nous, les choses de la vie et de la mort commencent à contenir en elles-mêmes de la lumière qui rayonne sur nous. Voilà ce qui est vrai. Et bien maintenant, l'autre jour, à la télévision, une jeune femme disait « Je crois en Dieu, mais ça ne m'est pas indispensable. » Ah, c'est là qu'on voit, il faut encore croire au vrai Dieu. Mais comment est-ce où est-ce qu'il faut aller se chercher un Dieu dont on dit j'y crois, mais ça m'est pas très utile. Ça m'est pas indispensable, c'est vraiment un peu du luxe, ouais, je peux très bien m'en passer. Un Dieu dont on peut se passer, est-ce que c'est encore un Dieu? Vous voyez la petite dame devant son Dieu qui lui dit, tu sais, tu n'es pas indispensable. Non, mais vous comprenez, c'est comme ça. Dieu, dès qu'on le met dans nos idées, il se déforme. C'est comme l'eau. L'eau, elle n'a pas de forme. Mais vous mettez de l'eau dans du rond, elle devient ronde. Vous mettez de l'eau dans du carré, elle devient carré. Vous mettez Dieu dans nos idées, il prend la forme de nos idées, une forme terrible. Ça le fait minable, ça le fait pitoyable, ça le fait grotesque, ça le fait faux Dieu. Il n'y a qu'un endroit où Dieu garde vraiment sa forme. Il n'y a qu'un endroit où Dieu est le vrai Dieu, c'est dans les paroles du Christ. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire dans le Dieu que nous fabriquons nous. Il faut croire dans le Dieu de Jésus-Christ. Il faut se laisser envahir par ses paroles tout le long de sa vie. On n'a jamais fini de les recevoir, de les accueillir, d'essayer de les comprendre. Ces paroles qui portent en nous le vrai Dieu, si seulement tu pouvais comprendre toi aussi en ce jour ce qui peut te procurer la paix. Puis voyez-vous, c'est une chose extraordinaire, la plus belle qu'on puisse faire dans sa vie, que de s'ouvrir à la vérité, de l'accueillir, la vérité, de la regarder croître en nous, de la faire croître en nous, et puis de la laisser fleurir. Bientôt, les maisons de Saint-Livre et de Yan auront de nouveau des façades fleuries, on se réjouit d'avance. Une seule fleur sur une seule petite fenêtre, ça change toute une maison. Quand la vérité pose sa fleur sur le rebord de notre vie, ça change tout. Le vrai Dieu. C'est un Dieu qui dit, tu sais, si tu veux, je marcherai avec toi. Et ça change tout. Le vrai Dieu, c'est un Dieu qui dit, tu sais, si tu veux, je mangerai avec toi. Et ça change tout. Le vrai Dieu, c'est un Dieu qui dit, tu sais, si tu veux, je tiendrai la lampe quand la nuit commencera à t'envelopper. Un Dieu qui tiendrait la lampe. Si seulement tu pouvais comprendre, toi aussi, en ce jour, ce qui peut te donner la paix. Seigneur, je crois que j'ai compris ce qui peut me donner la paix, ce qui peut me faire aimer la vie. C'est toi. Qu'est-ce qui a dit ça? Est-ce que c'est moi? C'est vous? Ah, c'est nous tous, les jeunes et les moins jeunes. Je crois, Seigneur, que j'ai compris. C'est toi. Alors maintenant, on peut dire Amen. Nous avons, il y a quelques jours, franchi l'équinoxe. Désormais, la lumière augmentera. Désormais, les jours seront plus longs, les nuits seront plus courtes. Ça se voit où? Que la lumière l'emporte. Ça se voit, on vient de le dire, ça se voit dans le calendrier, ça se voit dans le ciel, au-dessus de nos têtes, ça se voit dans la nature, que la lumière augmente. Est-ce que ça va se voir aussi, non pas seulement sur nos têtes, mais dans nos têtes? Que la lumière augmente, est-ce que ça va se voir aussi, non seulement dans la nature, mais dans notre cœur? Ah, nous sommes, nous, beaucoup plus compliqués que le calendrier. nous avons-nous dans notre vie, non, une masse de saisons? Ou plus exactement, nous changeons de saison plusieurs fois par jour. Un moment dans la journée, c'est le printemps. L'instant d'après dans la journée, pour nous, c'est l'hiver. Nous changeons de saison plusieurs fois par jour et même nous changeons de saison plusieurs fois dans le même jour, dans la même heure, dans la même minute. L'instant qui passe, nous sommes dans des pensées claires, nous avons du courage. Et l'instant d'après, nous sommes au fond du pot. Est-ce qu'on va voir seulement dans la nature que la lumière augmente? Vous me direz, c'est bien naturel que les choses se passent comme vous le dites. C'est tout à fait normal, puisque les événements dans notre vie sont changeants eux-mêmes. Les événements sont divers. Il y a la santé, bien sûr, mais il y a aussi la maladie. Et puis, il y a l'amour, c'est vrai, mais il y a aussi la mort de l'amour. Il y a qu'on est ensemble, c'est vrai. Et puis, il y a aussi que brusquement, on est seul. Une jeune femme, c'était hier, nous a dit: à mon travail, dans mon bureau, je me sens effroyablement seul. Mon patron est malade, c'est bien simple. Au bureau, je me sens tellement seul que j'ai l'impression d'être chez moi. Son mari l'a abandonné. Et comment voulez-vous que le printemps vienne sur une vie comme ça? Est-ce que c'est facilement que la lumière peut s'allonger dans une vie comme ça? Et quand les enfants se détournent de nous, l'autre jour, je vois toujours ce regard brun derrière lequel on lisait une détresse, ces yeux bruns de cette femme qui disait: ma fille a déménagé l'autre jour. Elle se trouvait un petit appartement. Elle quittait ses parents. Elle quittait bien plus que ses parents. Elle quittait ce qui fait vivre ses parents. Elle quittait ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent, ce qu'ils tiennent pour vrai. Cette femme était désolée. Vous savez, on sentait qu'on lui avait non seulement déménagé les meubles de sa fille, mais qu'on avait déménagé son cœur. Et comment faut-il que sur nos vies, comme elles vont, la lumière augmente? Et pourtant, si on en revient au printemps, le printemps aura lieu envers et contre tout. Il a beau neiger, on a beau connaître des retours de froid, le printemps se fera. Il aura raison contre tout. Le printemps se fera. Les fleurs fleuriront. Les arbres mettront des feuilles. Vous verrez. Et les jours s'allongeront. Vous verrez. Et pourquoi est-ce que le printemps se fera envers et contre tout? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que le printemps n'est pas suspendu aux nuages qui passent. Il est suspendu bien plus haut, le printemps. Il est suspendu au soleil qui ne passe pas. Et c'est pourquoi, envers et contre tout, le printemps se fera.
si notre vie était suspendue un peu plus haut que ces nuages, si notre vie, elle aussi, était suspendue à Dieu. Mais c'est peut-être là que les véritables difficultés commencent. Parce que, je sais que vous allez le dire, parce qu'il se trouve que pour nous, Dieu aussi a deux visages. Un visage de lumière, puis un visage d'ombre. Un visage nocturne, un visage fermé, un visage mystérieux, un visage que nous ne comprenons pas, que nous ne déchiffrons pas. C'est un peu à cause de ces deux visages de Dieu que nous ne pouvons pas faire tenir ensemble. C'est un peu à cause de ces deux visages de Dieu que nous ne savons plus bien que penser, que nous ne savons plus bien où et à qui faire confiance, et que nous n'arrivons pas à suspendre notre vie aussi haut qu'il le faudrait. Le visage de lumière de Dieu, c'est très simple, c'est le visage du Dieu de la beauté du monde. C'est le visage du Dieu des soirs et des matins, de l'herbe et des bêtes. C'est le visage du Dieu de la rencontre de l'homme et de la femme. C'est le visage du Dieu de la tendresse, du Dieu de l'amour. C'est le visage du Dieu qui a séparé, justement, la nuit et le jour, pour que le jour l'emporte. Le visage de lumière de Dieu, c'est le visage du Dieu de Jésus-Christ. Parole faite chair, qui vient habiter au milieu de nous, qui nous parle, qui nous parle et qui nous pardonne. Qui nous fait vivre. Ça, c'est le visage de lumière de Dieu. À ce visage-là, on accrocherait tous volontiers et facilement notre vie. Mais il y a l'autre, le visage sombre de Dieu. Alors, ce visage-là, c'est le visage pâle et obstiné de la souffrance qui rôde partout dans le monde. Le visage sombre de Dieu, c'est le visage de la nature totalement indifférente à tout ce qui se passe. La nature qui détruit ce qu'elle crée elle-même, qui détruit sous l'inondation, qui bouscule sous l'avalanche, ça lui est tout à fait égal. Le visage sombre de Dieu. C'est le visage de la nature qui fait briller sur ses étoiles sur ceux qui meurent de faim comme sur ceux qui ont trop mangé. Ça lui est égal. Ça, c'est le visage sombre de Dieu. Et c'est aussi le visage sombre de Dieu, l'homme, laissé capable de tout, laissé capable des pires crimes et des pires bassesses. Le visage sombre de Dieu. C'est le visage de la maladie qui ronge. Et il y en a qui écoutent aujourd'hui de leur lit d'hôpital et qui savent de quoi on parle. C'est le visage sombre de Dieu, c'est le visage sombre de la mort qui sépare ceux qui s'aiment. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a vraiment un visage de nuit de Dieu? Un visage sombre, indéchiffrable, fermé et incompréhensible qui dévore l'autre et qui fait que, au total, nous n'avons plus de Dieu. Ce serait comme si le printemps ne pouvait plus compter sur le soleil. Alors, qui nous expliquera? Qui nous sortira de là? C'est aujourd'hui Vendredi Saint. Eh bien, c'est de ce jour sombre que va sortir un peu de lumière. Un peu. Une lumière suffisante. Je crois que c'est très important, cette idée que la lumière qui nous vient, n'est pas la lumière totale, mais une lumière suffisante. Vous savez, les gens qui partent en vacances de nuit, les phares de leur voiture suffisent pour faire la route. Mais s'il fallait découvrir avec les phares de la voiture le pays où l'on arrive, alors, pour ça, il faudra le soleil. Eh bien, la lumière qui peut nous venir de ce jour de Vendredi Saint est une lumière suffisante pour que nous puissions faire notre route et arriver jusque là où se lèvera pour nous tous un autre soleil. Voilà. Alors, en ce jour de Vendredi Saint, Christ lui aussi est descendu dans la souffrance. En ce jour de Vendredi Saint, il est descendu même dans une souffrance que nous n'arrivons pas à mesurer, parce que nous croyons que la souffrance du Christ, c'est les coups et c'est les clous. Mais ça n'a pas été ça. D'abord, la souffrance du Christ, ça a été de voir les hommes si durs, si fermés, si hostiles à la vérité, si rapides pour donner la mort et si lents pour comprendre quelque chose à la vie. C'est ça qui a été la véritable et profonde souffrance du Christ qui a vécu 1000 morts à cause de nous. Eh bien, Christ a souffert. Le Christ de lumière a souffert. Le Fils de Dieu a souffert. Le Fils de Dieu lui-même a entrevu le visage sombre de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous me direz, bien sûr, et puis quoi? Cette montagne de souffrance ne fait que s'ajouter aux autres montagnes de souffrance, et puis quoi? Eh bien, il faut quand même dire ça d'abord. Que Christ ait souffert, ça nous rend à tous. Pour aujourd'hui ou pour le jour où nous aurons à l'affronter, ça nous rend à tous la souffrance plus fraternelle, moins ennemie, de sentir que le Christ lui aussi a souffert. Et vous voyez qu'il ait souffert, qu'il ait poussé le cri qu'on disait tout à l'heure, « mon Dieu, pourquoi ?» Eh bien, quand nous, on dit « pourquoi ?», ça rend notre cri moins sauvage, moins solitaire, moins terrible de savoir que Jésus aussi a crié. Ben voilà, c'est vrai. Le Christ de Noël, il avait une belle main, une main faite pour la vie, une main faite pour le bonheur. S'il n'avait eu que cette main à poser sur l'épaule des hommes, on aurait pu lui dire, bien sûr, seulement tu ne sais pas ce que c'est, toi. Vendredi Saint, Christ a une main percée. Et c'est cette main percée qu'il pose sur l'épaule des hommes. Un rescapé des camps de concentration disait, c'est là-bas que j'ai compris pourquoi le Christ devait souffrir. Parce que s'il n'avait pas souffert, il n'aurait pas pu être avec nous là-bas. Paul Claudel a dit, Christ n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu l'expliquer. Il est seulement venu la remplir de sa présence. Mais maintenant, il y a encore une chose beaucoup plus importante que ça et qu'il faut dire absolument. Et pour la dire, nous allons rapporter ici, parce que je sais, je vous en ai parlé l'autre jour, mais ces mots ne sortent pas de mon esprit et il faut que je les redise aujourd'hui. Une femme, une personne qui s'occupe des enfants débiles, mentaux, profonds, comme on dit. Et ce mot profond, n'est-ce pas, évoque tous les innombrables obstacles superposés qui, depuis les sources de la vie jusqu'à la surface de la vie, empêchent, semble-t-il, toute émergence, toute montée de la vie des enfants débiles, profonds. Eh bien, cette personne disait. Résultat d'années et d'années d'efforts, de patience et d'amour, elle disait, il y a toujours, à travers tout ça, un petit chemin qu'on trouve et qui débouche sur la lumière. Vendredi Saint, ce n'est pas seulement une accumulation de souffrances. C'est aussi, à travers toutes ces couches de souffrances, un petit chemin qui se ferait un passage et qui débouche sur la lumière. Tout de même, Vendredi Saint n'a pas été aussi opaque, n'a pas été l'échec auquel nous croyons peut-être trop facilement. Sur Vendredi Saint, il y a déjà la lumière de Pâques. La croix qui a été le signe de la mort nous a été rendue comme un signe de vie. Non ? C'est la preuve que le visage obscur de Dieu ne détruit pas son visage de lumière. Dieu n'est pas un Dieu dont les deux visages se mangent l'un l'autre et se dévorent si bien qu'il ne reste rien plus de Dieu que la souffrance et que la mort. Ce que nous prenons pour le visage obscur de Dieu n'est que la partie du visage de Dieu sur laquelle se projette l'ombre de ce que nous ne comprenons pas. Voyez-vous. Avec un récepteur de télévision, eh ben, on n'a jamais vu, avec un récepteur de télévision, quelqu'un se tromper de côté. Du côté de l'image, c'est tellement simple, c'est tellement accessible, c'est tellement beau. Et puis alors, de l'autre côté, je sais bien qu'il faut enlever le carton, mais si on enlève le carton protecteur, ce qu'il ne faut pas faire, mais si on l'enlevait, ben, qu'est-ce qu'on verrait ? Rien, un fouillis inextricable de choses absolument incompréhensibles, tout à fait le visage obscur. Et pourtant, l'image n'est pas moins portée du côté où nous ne comprenons rien, où tout est compliqué, inextricable et obscur. Elle n'est pas moins portée de ce côté-là du récepteur de télévision que du côté où elle apparaît sur l'écran simple et lumineuse. Au contraire, peut-on dire. Le visage obscur de Dieu, ça n'existe pas. Dieu n'a qu'un visage, mais sur ce visage, c'est vrai, c'est en l'ombre de ce que nous ne comprenons pas encore, mais un jour, nous comprendrons. Allons, le printemps se fera, envers et contre tout, parce qu'il est accroché au soleil, au-dessus de tous les nuages. Christ, un instant, s'est en fait semblable à nous, a failli désespérer. Mon Dieu, mais l'instant d'après, alors que se tournait vers lui un visage de Dieu sur lequel il n'y avait plus que de la lumière, Jésus disait, Père, je remets mon esprit entre tes mains, attachant sa vie au sommet. Nous pouvons nous aussi, là où Christ a attaché sa vie, attacher la nôtre. Au-dessus de tous les nuages, pour que les nuages ne nous affolent plus. Et alors, notre vie et aussi toute la souffrance du monde auront aussi leur petit chemin traversant tout et débouchant sur la lumière. Amen.
Voilà, eh bien, l'autre jour à la télévision, un savant français, le prince Ringuet, qui s'exprimait d'ailleurs en chrétien qu'il est, disait « Il faut absolument entreprendre quelque chose pour éviter notre mise en cercueil. » Pour éviter notre mise en cercueil. Il ne parlait pas, bien entendu, de la mise en cercueil des morts, qui est une chose douce et inoffensive. Mais il parlait de la mise en cercueil des vivants, de notre mise en cercueil. Parce qu'il y a dans notre vie beaucoup de choses qui entendent nous mettre en cercueil tout vif. Il y a, bien sûr, parmi les choses qui veulent nous mettre en cercueil tout vif, nos folies, nos crimes, nos violences, nos injustices, on sait la suite. Mais peut-être que plus encore que les folies et les injustices et les violences veulent nous mettre en cercueil tout vif, vous le savez bien, nos doutes, notre vide intérieur, nos désespoirs. Voilà. C'est surtout ça qui est dangereux. Les deux hommes qui marchent sur le chemin d'Emmaüs, ils ont l'air bien, ils ont l'air de se porter bien, même sur leurs deux pieds. En réalité, ce sont des hommes mis en cercueil. Leur espérance est morte. Et ils sont morts en même temps que leur espérance. Ils marchent, mais ils ne vont plus nulle part. Ils ne croient plus à rien. Ils sont encercueillés vivants. Eh bien, nous, ce n'est pas seulement nos doutes. Et eux non plus, d'ailleurs. C'est peut-être pas tellement leurs doutes qui les encercueillent. Vous savez ce que c'est qui les encercueille? Eh bien, c'est leurs idées trop petites. Parce qu'ils ont des idées petites. Ça arrive très facilement. Voyons. Leur idée, c'est que quand on est mort, on est mort. Alors, Jésus est mort, il est mort, c'est fini, on n'en parle plus. Enfin, est-ce qu'on peut voir ou est-ce qu'on peut croire le contraire de ce qu'on voit? On a vu Jésus mourir, il est mort, bon ben, c'est fini. Et à ce Jésus qui les a rejoints, vivant, mais qu'ils ne peuvent pas reconnaître, justement, tant l'idée, leur petite idée, les remplit tout entier. Que quand on est mort, c'est justement à lui qu'ils disent « Est-ce que tu es le seul étranger à Jérusalem qui ne sache pas que Jésus, c'est fini ?» Pour eux, c'est fini. Ils sont encercueillés dans leurs idées, trop petites. C'est la même chose avec nous. Nous doutons, nous aussi, de la résurrection. Nous ne doutons pas de Dieu, en général. On sait bien qu'il y en a un plus grand que nous. Mais alors la résurrection, ça paraît décidément un peu trop grand.
Alors ça, on doute de la résurrection. On croit en Dieu, mais on ne croit pas en la résurrection. Vous savez ce qu'on fait quand on ne croit pas en la résurrection? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne croit pas en la résurrection? Quand on ne croit pas en la résurrection, alors on croit à la mort. Mais je veux dire à la mort toute puissante, comprenez? Ne pas croire à la résurrection, c'est croire que c'est toujours la mort qui a et qui aura le dernier mot. La mort toute puissante. C'est à ça qu'on croit quand on ne croit pas à la résurrection. Dieu tout-puissant. La mort toute-puissante. Ah ben, ça fait deux tout-puissants, il y en a un de trop. Il faut choisir. Il faut se décider. Il faut choisir. À moins qu'on ne veuille changer un peu le Notre Père. Vous savez, et le terminer désormais en disant « Car c'est à toi, ô mort, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. » Mais au fond, qu'est-ce que c'est qui nous empêche de croire à la résurrection? Est-ce que c'est parce que ça ne s'arrange pas bien avec ce que nous voyons? Mais vous savez, ce qu'on voit, ce n'est qu'une toute petite partie de ce qui existe de toute façon. Alors, si la résurrection ne s'arrange pas tellement bien avec ce que nous voyons maintenant, ça n'a pas tellement d'importance. Il y a des gens qui achoppent, enfin nous achoppons souvent sur des détails. Il y a des gens qui disent « Je croirais à la résurrection si nous n'étions pas aussi nombreux sur la terre. » Ils ont peur d'être serrés. C'est des idées un peu serrées, elles aussi. Ou bien, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que nous n'arrivons pas à imaginer les choses, à comprendre, parce que ça... D'ailleurs, vous savez, soit dit entre parenthèses, croire à la résurrection, ce n'est pas comprendre la résurrection, ça c'est une toute autre affaire. Et qu'est-ce que nous avons compris à notre première naissance? Alors laissons Dieu faire pour la seconde, pour le second acte créateur. Il est spécialiste. Mais, quant à nous, si ça n'entre pas dans nos petites idées, la résurrection, il ne faut pas nous laisser encercueillir dans nos petites idées. Vous savez, on l'a dit. Ça a été dit, mais ça n'a pas été assez bien entendu. On a dit, dans un monde qui se présente comme une énigme de chaque instant, il n'est pas étonnant que la vérité soit surprenante, incroyable. Voilà. Voilà ce qui est juste. C'est que la vérité, naturellement, est surprenante et incroyable. D'ailleurs, vous savez, à propos de choses qui entrent ou qui n'entrent pas dans nos idées, il y a dans un des plus anciens films de Charlot, et Charlot, vous savez, il faut aller le chercher dans ses films, plutôt qu'au fond de sa tombe pour sortir son cercueil, comme on l'a fait l'autre jour. Bon, eh bien, dans un de ses plus anciens films, il y a un épisode merveilleux, dans lequel Charlot part en voyage. Alors, il se prépare pour partir en voyage, il fait sa valise, il a choisi une valise, il l'a choisie un peu petite. Alors, il ramasse tout ce dont il a besoin, et puis il le met dans la valise, et puis il bourre, et puis il serre, et puis il grimpe sur sa valise, et puis il met une courroie autour de la valise, puis il tire sur la courroie de toutes ses forces. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il a beau faire tout ce qu'il veut, il y a toujours encore une jambe de pyjama qui dépasse à un endroit, deux bras de chemise par derrière, un demi-veston par devant. Alors tout à coup, il a une idée extraordinaire. Il va chercher des ciseaux, puis il coupe tout ce qui dépasse. Et après ça, il est très content. Et il se dit qu'il est prêt à partir en voyage. Vous savez, la valise de nos idées, elle est très petite aussi. La valise de ce que nous pouvons comprendre, elle est un peu trop petite. Et nous voulons mettre dedans la vie et tous ses mystères. Alors, regardez, il y a toujours quelque chose qui dépasse. La résurrection, par exemple, ça dépasse un peu. Alors, on va chercher les ciseaux, on coupe. Après quoi, on se croit prêt pour le départ. Vous voyez? Non, vous savez, Il y a longtemps, d'ailleurs, aussi que Shakespeare, chacun connaît ça, a fait dire à l'un de ses personnages « Il y a plus de choses dans le ciel et dans la terre, Horatio, que n'en peut rêver ta philosophie, ton petit système, tes petites idées. Il ne faut pas se laisser encercueiller dans nos systèmes trop petits. » D'ailleurs, il y a une parole bouleversante du Christ. Vous la connaissez bien. Il a dit, dites-moi parmi vous, est-ce qu'il se trouverait un seul père qui, si son fils lui demande du pain, lui répondrait en lui donnant des pierres? Et il disait, alors si vous, avec ce que vous valez, vous savez donner de bonnes choses quand vos fils vous les demandent, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors, est-ce que vous croyez sérieusement que quand pendant toute une vie, on demande à Dieu le pain de vie, il va nous répondre avec les pierres du cimetière? Les deux hommes qui s'en vont sur le chemin d'Emmaüs. Quelque chose va les sortir de leur cercueil. Et ce quelque chose, c'est un signe que Jésus va leur donner. Jésus qu'ils n'ont toujours pas reconnu. Bien sûr que non, ils sont tellement enfermés, ils sont tellement arrêtés. Mais tout à coup, le signe que Jésus va leur donner, ce pain qu'il va rompre, comme il l'a fait avec eux le jeudi saint, comme il va le faire avec nous tout à l'heure. Ce pain qu'il rompt, tout à coup, c'est le signe. Le signe, enfin, plus fort que, vous savez, que la courroie de leur valise à la Charlot. Alors, tout à coup, ils comprennent. Alors, tout à coup, ils le voient. Ils le reconnaissent. Vous me direz, oui, mais Jésus leur a donné plus qu'un signe, puisqu'il était là lui-même. Oui, mais vous avez remarqué aussi que au moment où les deux hommes ont reçu le signe, au moment où ils l'ont décodé, au moment où ils l'ont compris, à cet instant même, Jésus disparaît. Non, 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 nous ne sommes pas. Les deux hommes d'Emmaüs n'étaient pas, et nous non plus avec eux. Nous ne sommes pas dans le temps des présences visibles. Nous sommes bel et bien, après la résurrection du Christ, dans le temps des signes visibles, mais d'une présence qui reste invisible. Voilà ce qui est vrai. Mais le signe a suffi aux deux hommes, et peut-être nous suffira-t-il à nous aussi, pour repartir en sens inverse. Et ils sont remontés à Jérusalem, et non seulement ils sont remontés à Jérusalem, ce qui aurait été encore peu de choses, mais ils sont remontés dans leur espérance, ils sont remontés dans leur courage, ils sont remontés dans leur joie. Ils sont devenus d'autres hommes. Ils se sont désencercueillés. Enfin vivant. Ah, une espérance refaite. Voilà. Et non seulement ils sont vivants, mais encore, ils sont maintenant capables, beaucoup mieux qu'avant, leurs idées, vous voyez, s'étant un peu élargies. Ils sont capables, beaucoup mieux qu'avant, de voir les signes qui leur sont encore donnés. Parce que les signes, c'est vrai, il faut les voir. Et ce n'est pas toujours si facile que ça. Avec nos idées tendues comme des élastiques trop petits, et avec nos yeux qui voient toujours un peu moins bien que nous ne croyons, eh bien, les signes, ce n'est pas tellement facile à voir. Surtout qu'on s'occupe de tant d'autres choses qui nous font signe, elles aussi, que les signes de Dieu, ça n'est pas facile à voir. Tout le monde connaît la phrase de Saint-Exupéry, elle est fameuse. mais elle mériterait de l'être davantage encore. Quand Saint-Exupéry dit, n'est-ce pas, on ne voit bien qu'avec le cœur. Les choses importantes sont invisibles pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. D'accord. Mais avec un cœur dans quel état? Ça, c'est la question. Physiquement, on peut avoir un cœur qui nous empêche de monter un peu rapidement un escalier. Mais spirituellement, on peut avoir un cœur qui nous empêche de monter une seule marche en direction de Dieu. Mais voyons, si j'ai un cœur qui ne cherche rien, vous savez que Jésus a béni celui qui cherche, peut-être encore plus que celui qui trouve, quoiqu'il ait promis à celui qui cherche qu'il trouvera. Si j'ai un cœur qui cherche rien, si j'ai un cœur qui est rempli de moi-même et hélas content de moi-même, si j'ai un cœur qui n'a jamais, qui ne dit jamais, j'ai soif de Dieu, j'ai soif du Dieu vivant. Bon, j'ai un cœur qui n'a jamais soif, quand même il est sec. Hein? Si j'ai un cœur qui n'est préoccupé d'aucune nouvelle naissance, sinon de celle que représente la prochaine voiture, nouvelle naissance. Alors, comment est-ce que vous voulez que ce cœur voit quelque chose? Comment vous voulez que ce cœur voit les signes de Dieu? Quand je sais rien, quand je sens rien, quand je vois rien, quand je n'admire rien, quand je ne suis reconnaissant pour rien. Qu'est-ce que je découvre dans la plus belle forêt? Qu'est-ce que je rapporte du plus beau voyage? Qu'est-ce que je retire de la rencontre la plus extraordinaire avec la bête la plus extraordinaire ou avec l'homme le plus extraordinaire? Quoi? Qu'est-ce que je sors de la plus belle musique? Qu'est-ce que je sors du plus beau tableau? Alors, si je ne vois rien nulle part, si je n'aperçois nulle part des choses qui ont valeur de signes, qui font vibrer mon cœur, qui m'ouvrent les yeux, qui enlèvent la courroie de ma, vous savez, de ma petite valise, si jamais je ne vois rien, comment voulez-vous que je voie les signes de Dieu? Et si je ne vois pas les signes de Dieu, comment voulez-vous que je voie dans la vie autre chose qu'une chose absurde? Et dans la maladie, autre chose qu'une injustice? Et dans la mort, autre chose que, et puis on t'enterre, et puis c'est fini? Je crois que, je vous le disais l'autre jour, je ne me rappelle plus, mais on raconte que Grenade, je ne suis jamais allé, que Grenade est une ville si belle, si admirable, où il y a tant de choses magnifiques à voir. Allez, ça c'est pour les cœurs qui peuvent voir. Qu'il paraît que la plus grande misère, le plus grand malheur, c'est d'être aveugle à Grenade. Bon. Je me demande si, sur les chemins de ma vie, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, je ne suis pas aveugle quelquefois, moi aussi. Et si ce n'est pas un beaucoup plus grand malheur que d'être aveugle à Grenade. Maintenant, il faut dire peut-être encore une dernière chose. Vous savez, il ne suffit peut-être pas de voir les signes. Peut-être qu'il faut encore leur répondre. Peut-être que tant qu'on n'a pas répondu aux signes, on ne les a pas encore bien vus. Les signes de la résurrection, pour les avoir bien, pour être sûr de les avoir bien vus, reconnus, il faut leur répondre par des actes de résurrection. On me dirait, bon, qu'est-ce que c'est qu'encore que ça? Des actes de résurrection. Eh bien, vous savez, c'est très simple au fond. Ce sont les actes pour lesquels nous vivons. Les seuls qui valent la peine, c'est-à-dire les actes qui méritent d'être ressuscités. Vous ne pensez quand même pas que tout ce qui se passe dans notre vie mérite d'être ressuscité. Non. Mais de temps en temps, il s'y passe quelque chose qui mérite, peut-être faut-il mettre ce mot entre guillemets, d'être ressuscité. Mais des choses toutes simples. Un acte qui crée de la beauté parmi les hommes, c'est un acte qui mérite d'être ressuscité. Non ? Un acte qui crée quelque chose d'utile, mais qui fait pousser le blé. Un acte qui fait pousser le blé, c'est un acte qui, d'une manière ou d'une autre, mérite d'être ressuscité. Un acte qui, je ne sais pas, qui recoud bien un ventre. Un acte qui, je ne sais pas, qui fait la vaisselle avec amour. Ça peut peut-être arriver, ça, avec une machine et avec amour. Ou sans machine, et, enfin, je ne sais pas. Un acte de résurrection. C'est très important, les actes. Non seulement parce que ce sont les actes, mais quand je dis actes, ça veut dire aussi des attitudes, des paroles, des entreprises, tout ce qu'on veut. C'est très important, les actes, parce que les actes, ça change un peu le monde. Pas beaucoup, mais ça change quand même un petit peu. Ce qu'on fait à Yan et à Saint-Livre, ça ne bouleverse pas le monde, mais ça le change quand même. En bien ou en mal, mais... Et puis... Un acte, ça nous change nous-mêmes, surtout. Vous voyez, quand je fais quelque chose de bien, alors je deviens mieux. Quand je fais quelque chose qui procure de la lumière, alors je vois mieux la lumière, et plus je vois la lumière, plus j'ai envie de faire des choses qui produisent de la lumière. Vous voyez, c'est la boule de neige. Jésus en a parlé. Voilà, alors... Un acte qui crée de la beauté. Je vous ai raconté une fois l'histoire du peintre Renoir. Bon. Renoir, il avait 80 ans, 80 ans. Il avait les mains tordues de rhumatisme. Et il peignait toujours au milieu des plus grandes souffrances. Et Matisse, l'autre peintre, eh bien, il lui disait, mais Renoir, pourquoi ? Au milieu de tant de souffrances, pourquoi souffrir comme ça pour peindre encore ? Et Renoir lui répondait, c'est parce que la souffrance passe, mais la beauté demeure. Voilà. Souffrir pour que la beauté demeure. C'est peut-être même ce que fait M. Aldo Moro. C'est un acte de résurrection. On ne peut pas faire la liste, il y en a tellement. Pardonner, c'est un acte de résurrection. Se réconcilier, c'est un acte de résurrection. On ne veut pas faire la liste, mais chacun invente lui-même les actes de résurrection par lesquels il peut répondre aux signes de résurrection, ce qui fait qu'on les voit toujours mieux. Mais je voudrais juste dire ça encore, juste, qu'en fait, acte de résurrection, il y a de très jolies possibilités du côté de l'amour. Et par exemple, je ne suis pas le seul, par exemple, une très jolie possibilité du côté de l'amour entre l'homme et la femme. À condition quand même que cet amour regarde un peu du côté de toujours. À condition que cet amour s'élance un peu vers l'éternité. Non, mais vous savez, l'avenir est à l'amour, puisque l'avenir est à Dieu et que Dieu est amour. C'est assez clair. Seulement, encore faut-il que notre amour dure jusqu'au bout, comme celui du Christ qui a aimé les siens jusqu'au bout, nous a-t-il dit. C'est dommage qu'on se mette à croire un peu trop, pas pour très longtemps, je crois, mais c'est quand même dommage qu'on se mette à croire un peu trop aux amours bout de ficelle. Un petit bout par ici, un petit bout par là... On n'a plus que du court, du très court, du trop court. Une fille pour l'été, un mariage pour 5 ans. On met des dates limites sur l'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais je sens que ça va me passer. Alors on met une date limite. On met des dates limites sur l'amour comme sur les yogourts. Sur les yogourts, c'est très bien. Il faut, disait le prince Ringuet, absolument entreprendre quelque chose pour éviter notre mise en cercueil. Pour ça, Christ est ressuscité. Quant à nous, on est assez sur le bon chemin, puisque, comme le chemin d'Emmaüs, c'est aussi son chemin, le chemin de notre vie. À condition de savoir le reconnaître. Et aussi, par conséquent, à condition de voir ce qu'il y a à voir, de savoir entendre ce qu'il y a à entendre et de savoir faire ce qu'il y a à faire. Amen.